Bonjour à tous, c'est Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure. Je ne suis pas seule, par contre, en compagnie de Catherine Bourderon pour la deuxième semaine consécutive. Bonjour Catherine!
Bonjour!
Alors, cette semaine, on vous parle encore une fois de bonnes nouvelles, de nouvelles différentes. On va piger un peu partout, on est curieux, on se gâte, on en profite. Et on a Robert également pour la troisième et dernière semaine qui nous parle en direct du Nicaragua pour les bonnes nouvelles. Il nous parle de bonheur également. Et on reçoit à l'émission cette semaine la médecin chirurgienne plastique Marie-Pascale Tremblay-Champagne, sous-spécialisée dans la vas-y Catherine.
Reconstruction mammaire.
La reconstruction mammaire, mais non seulement ça, elle avance en travaillant avec les ganglions. Et elle nous parle d'une avancée spectaculaire dans le monde des femmes pour le cancer du sein. Et elle était également nommée personnalité de la semaine selon la presse. On l'a avec nous, on est chanceuse. Oui. Bienvenue à Aime la vie. Ah, on aime la vie. Et quand on parle de vie, on parle du sang, du corps humain, on parle d'eau, mais là, cette semaine, je vous parle d'ADN. Pas un petit sujet, quand même.
Et c'est quoi le mot complet?
Ah, hey! Savez-vous quoi? Très bonne question, Madame Bourderon. J'ai lu ce mot et je me suis dit, mais c'est impertinent. Personne ne dit ça.
C'est un exercice de diction.
C'est vrai? Tu le connais? Vas-y.
Non, sans façon.
Oh! J'aurais aimé.
Je suis tout de même pas Robert Blondin.
J'aurais beaucoup aimé, mais du moins, en tout cas. On parle d'ADN aujourd'hui. On sait que l'ADN, elle est comprise dans chacune de nos cellules. Et elle contient tout notre bagage génétique. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, l'ADN. L'ADN, il y a ses fondements, là, comme l'ADN. Qu'on étudie, mais qui a quand même une base scientifique solide. C'est un des domaines où on se dit, ben, l'ADN, on l'étudie beaucoup, on connaît, mais sachez qu'il y a des avancées exceptionnelles sur le plan de l'ADN actuellement. Et c'est ce que j'ai été chercher, qui a pris beaucoup de mon attention, je dirais, cette semaine, à commencer par le fait que non seulement on a le bagage génétique dans notre ADN, mais également les souvenirs de nos ancêtres qui s'y loge. Oui, notre mémoire peut passer à travers les générations par l'ADN. Et la mémoire de nos ancêtres serait présente dans nos cellules dès notre naissance. Et bien sûr, si la mémoire des ancêtres aide à la formation du matériel génétique et qu'on en prend conscience, on en capte l'impact avant notre naissance, clairement, elle est déjà également dans le matériel chez le parent lui-même. Et lui aussi vit avec le bagage mnémonique de ceux qui sont venus avant. On a fait une étude avec des rats. Et on a fait... Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit la population visée?
Oui, c'est ça, mais bon.
On a fait une étude avec les rats et on a fait des tests en laboratoire. De jeunes rats étaient mis dans un labyrinthe. Et si le parent avait appris au préalable des informations sur ce même labyrinthe, donc avait été mis dans cette situation-là avant et qui en avait appris quelque chose, les enfants de ces rats-là ne partaient pas à zéro et avaient déjà eux aussi des connaissances à la base de ce même labyrinthe dans lequel ils n'avaient jamais été eux-mêmes placés. Et il y a certains scientifiques qui avancent que cette passation de la mémoire entre les générations pourrait expliquer pourquoi certaines personnes savent des choses sans jamais les avoir apprises. Et là, il m'est venu en tête immédiatement ces virtuoses de piano, de violon, qui, oui, à 3 ans, sont des phénomènes dans leur domaine. Écoutez, donc, on commence à émettre des hypothèses par rapport à ça. Et on pense également que notre instinct de survie la plus primitive pourrait provenir de traumatismes vécus par des proches décédés. En fait, les traumatismes vécus par les ancêtres décédés et la mémoire qui en resterait et qui voyagerait dans l'ADN formerait notre cerveau à répondre de manière instinctive aux différents dangers de notre environnement en fonction de ce que ceux qui ont passé avant nous auraient appris, malheureusement à leurs dépens, parfois. On a donc intégré le terme « mémoire génétique » pour parler de ce concept et on l'utiliserait également dans notre compréhension actuelle des traumas intergénérationnel et la passation d'oppression historique qui resterait actif dans la descendance de ceux qui l'ont vécu directement. D'ailleurs, un des plus grands exemples de trauma intergénérationnel de notre société ici au Québec, ce sont les Autochtones, et on connaît bien ce trauma intergénérationnel-là. D'ailleurs, quand j'étais à l'université, j'ai fait un travail complet sur ces traumas intergénérationnels-là et l'itinérance identitaire qui en résulte. C'est pas nécessairement terminé parce que ça n'a plus lieu. Les générations actuelles portent encore ce qui s'est passé, et ça, j'ai pris l'exemple le plus proche de nous, mais c'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement avec la passation de la mémoire dans l'ADN. Et les souris ont également été étudiées et ont passé à leur descendance des réponses et des événements potentiellement dangereux et stressants, et on parle même de transfert.
Les souris transfèrent quoi?
Beaucoup de connaissances, des stress. On a vu on a parlé d'instinct, on vient de parler d'instinct et de trauma intergénérationnel. Ça a été vu également chez les souris, cette passation-là. Et on voit aussi, on parle même de transfert des phobies de génération en génération. Puis là, on pense à la peur des serpents, des araignées. Également qui sont tellement répandus, et la plupart d'entre nous, on ne sait pas pourquoi on a ces peurs-là. C'est comme des peurs qui n'ont pas d'explication. Moi, j'ai extrêmement peur des serpents, mais je ne suis pas en Australie. Je n'ai jamais vu un serpent de ma vie. J'en ai vu dans des aquariums, comment on appelle ça? Des vivariums. Merci Jean-Sébastien, à la régie, toujours présent quand un mot me manque. Mais j'ai pas de raison.
Donc, ça serait dans l'ADN, les phobies?
C'est une hypothèse qui est avancée par les scientifiques qui se penchent sur l'ADN actuellement. Et ces découvertes-là vont bien sûr mener à la possibilité de traiter divers désordres psychologiques et émotionnels, comme oui, les phobies, mais l'anxiété également. Souvent, on entend dire « ma mère est anxieuse, ça se passe
c'est vrai, hein?
de génération en génération », et au-delà de ça, les états de stress post-traumatique. Mais quand on y pense... Parce que j'ai un exemple qui me vient en tête, clairement, d'eczéma. Quelqu'un peut dire, il fait de l'eczéma comme son grand-père. Ça a passé une génération, mais on le sait que ça a une source quelque part. Je me dis, si on peut parler de nos bobos de peau, pourquoi on ne parlerait pas de ce qui se passe dans nos têtes, de nos pères, puis du comment on réagit à nos vies? Moi, ça fait beaucoup de sens.
Puis les parents qui sont parfois fiers de leurs enfants vont dire, il est beau comme sa mère, il est intelligent comme son père. On s'attribue aussi des qualités.
Oui, mais ça, c'est le bagage génétique. Mais là, c'est rendu qu'on apporte en plus leurs souvenirs. On est rendu... on se lâche pas.
Oui, on y va plus loin.
Et quelle joie de ne pas avoir terminé de vous parler de l'ADN. Et notre cher Jean-Sébastien à la régie nous a surpris pendant la pause musicale à savoir le nom complet de l'ADN. Jean-Sébastien?
Oui, c'est un tourne-langue quand même. L'acide désoxyribonucléique.
L'acide?
Désoxyribonucléique. Alors, si on le décompose, déjà, c'est deux mots. Acide, désoxyribonucléique, désoxyribonucléique.
Est-ce que Google est ouvert sur ton ordinateur et je ne le vois pas?
Je refuse de répondre à la question.
Alors, voilà.
Quel érudit, cet homme.
Le mystère est percé. Catherine, merci d'avoir lancé la perche. On a pu avoir un très, très long mot à l'émission aujourd'hui. Super. ADN. Et là, on part, on continue au-delà du bagage génétique et de la mémoire de nos ancêtres. Et là, je vous garantis que c'est particulier. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais l'ADN pourrait contenir toutes les informations du monde en une capsule. Je vous laisse une seconde. On se rend compte que l'eau comporte de l'ADN utilisé pour emmagasiner des données. En fait, un seul gramme d'ADN pourrait emmagasiner, attention, combien de gigs vous pensez? Jean-Sébastien, t'aimes ça faire des évaluations? Tu veux faire ton fin finot? Combien de gigs crois-tu qu'un gramme d'ADN peut contenir?
Je vais y aller avec un chiffre excessivement élevé. 12 000.
C'est quand même beaucoup, hein?
C'est quand même... On est plus dans les gigs, on est rendu dans les terras, mais 12 000 gigs, j'irais avec... Quand même. Le corps humain me surprendra toujours. J'aime mieux surévaluer.
Non, je te parle d'un gramme d'ADN actuellement, là. C'est 215 millions de gigs.
J'étais très loin tout de même.
T'étais très loin tout de même. Et juste pour vous donner une idée, la clé USB que j'utilise dans ma vie de tous les jours en a 8.
Moi, j'en ai 30, mais bon.
Et mon ordinateur en a 2000, puis je le trouvais vraiment super performant. T'sais, c'est 215 millions de gigs qui peut être contenu en un seul gramme d'ADN. C'est fou. Et actuellement, on est en train d'évaluer les façons dont on peut contenir des livres. Il y a un livre, on a commencé cette méthode-là en 2012, il y a un livre de 52 000 mots qui a été emmagasiné dans de l'ADN. Et on veut commencer à utiliser cette méthode-là parce que c'est très compact. Ça dure des centaines de milliers d'années. Donc, ça ne se dégrade pas avec le temps comme des CD-ROM ou des cassettes avec le fameux tape noir, le fameux ruban noir. Et on a bon espoir que l'ADN reste donc assez in, assez longtemps.
Mais comment ça fonctionne? Parce que l'ADN, on la retrouve où? Dans la salive?
Dans l'eau.
OK.
Oui, dans l'eau, on a des capsules, des petites éprouvettes. Là, on travaille, mais actuellement, cette méthode-là est excessivement dispendieuse. On ose croire, tout le monde reste bien optimiste que ça devienne un peu plus accessible. Mais pour le moment, c'est une méthode qui est très avant-gardiste. Mais je trouve que c'est assez particulier. On a décodé, comme je disais, un livre de 52 000 mots dans des milliers de petits morceaux d'ADN. Et c'est pas facile. Et là, on tombe vraiment dans quelque chose de complexe. Si tu me demandes comment ils font, c'est à s'y perdre parce que c'est un domaine qui est très, très, très pointu, mais on travaille... L'ADN a une série de lettres. L'AGTC, et c'est des lettres qui se combinent. Donc, on utilise ces lettres-là, on transforme les données en données binaires pour ceux qui sont informaticiens, tout en informatique, en programme informatique et binaire, donc avec des 1 et des 0. Et on encode et on encode et on remet ça ensemble. Mais là, on a beaucoup de difficultés à l'utiliser de manière optimale actuellement. Le plus grand nombre d'essais a été capable d'utiliser jusqu'à 50 % de la capacité maximale de l'ADN en termes d'emmagasinage potentiel. Celui qui a le plus de succès actuellement a été capable d'utiliser 85 % de l'espace disponible. Et on continue de manière dispendieuse à faire des recherches sur cette nouvelle façon d'emmagasiner nos données. Et on vient de découvrir également une nouvelle structure de l'ADN. On sait tous ou pas, mais l'ADN a une structure qui est en double hélice. Hein? Ça tourne, on le sait, là. Et cette double hélice-là n'est pas la seule façon dont l'ADN est structuré. On est en train de découvrir actuellement un nœud torsadé. Donc, on aurait cette hélice double et à un moment donné, pouf, il se forme un nœud torsadé. Et l'hélice continue par la suite et ces nœuds-là ne restent pas présents. Ils s'en vont et ils reviennent et on est en train de se rendre compte qu'ils pourraient être à l'origine de l'activation ou pas de certains gènes dans notre ADN. C'est ce qu'on est en train de vérifier. Et on avait découvert cette structure-là dans les années 90 dans une cellule in vitro, mais c'est la première fois que les chercheurs la trouvent dans une cellule vivante. Donc, à suivre.
Très intéressant. Alors, nous sommes en ligne avec Marie-Pascale Tremblay-Champagne, chirurgienne plastique. Elle fait toutes sortes d'opérations, mais elle est super spécialisée en reconstruction de sein après un cancer. Bonjour, madame. Ben, bonjour, docteur Tremblay-Champagne.
Bonjour à vous.
Alors, on est très content que vous soyez avec nous. Alors, vous avez procédé à une première au Québec en février dernier. D'ailleurs, on vous a lu à titre de personnalité de la presse récemment. C'est-à-dire que vous avez transplanté des ganglions et reconstruit des réseaux ganglionnaires dans le réseau lymphatique chez une femme qui avait subi une intervention pour un cancer du sein. Pour nous mettre un peu dans le contexte et pour le bénéfice de nos auditeurs, bon, ces opérations minutieuses que vous avez réalisées représentent des grandes avancées pour la reconstruction mammaire. Pourquoi?
Oui, tout à fait. Écoutez, on parle ici beaucoup de la reconstruction mammaire parce que dans notre contexte nord-américain, ce sont surtout les femmes atteintes d'un cancer du sein qu'on va voir qui sont affectées par ce qu'on appelle le lymphédème, qui est une enflure au niveau du bras souvent suite à leur traitement pour le cancer du sein, que ce soit l'ablation, la radiothérapie ou un évidement axillaire, c'est-à-dire enlever les ganglions dans l'aisselle pour guérir le cancer. Donc, ça représente une belle percée puis un bel espoir pour ces dames-là, parce qu'on parle d'environ 15 à... Les statistiques sont quand même larges, là, mais on parle d'au moins 15 % des femmes atteintes du cancer du sein qui vont potentiellement souffrir de lymphédème. Puis, c'était pas une chirurgie qui était offerte au Québec jusqu'à cette année, en fait. C'est pas une première mondiale, ça a été effectué déjà dans plusieurs autres pays, dont aux États-Unis où j'ai appris cette technique-là, mais c'est certainement un bel espoir de pouvoir maintenant implanter ça au Québec.
C'est ça, vous avez transplanté des ganglions avec des spécialistes mondiaux. Cette technique a été mise au point à Taïwan. Bon, oui. il est question de microchirurgie. Alors, savoir que l'on peut rebrancher des minuscules vaisseaux après un cancer du sein, c'est une excellente nouvelle?
Oui, tout à fait. Il y a déjà plusieurs techniques de microchirurgie qui existent pour la reconstruction du sein comme tel, donc pour recréer un sein chez la femme. Mais on parle de techniques de microchirurgie avec des vaisseaux qui sont beaucoup plus gros. Donc, en fait, la technique de transplantation ganglionnaire ou de reconstruction du réseau lymphatique, c'est vraiment une application de ces techniques-là qui existent déjà, mais sur des vaisseaux qui sont à peu près 4 fois plus petits. Donc, c'est sûr que ça a été une évolution de notre spécialité et de la microchirurgie pour en arriver là. Ça a débuté plus en Asie parce que là-bas, il y a beaucoup plus de cas de lymphédème, entre autres à cause d'atteintes parasitaires, par exemple, ou génétiques. Puis ça a tranquillement fait son chemin via les congrès et la communication entre chirurgiens vers l'Ouest et vers les pays européens, les États-Unis, puis maintenant au Canada.
Ce qui est drôle, c'est que quand vous étiez toute jeune, vous aviez peur de faire une dissection. Puis là, vous avez fait du chemin depuis.
Oui, tout à fait. Je pense que dans la vie, il y a des choses qui changent, premièrement. Je pense que tout le monde a un peu, des fois, des craintes dues à l'inconnu, mais je peux vous garantir que quand j'étais au primaire, au secondaire, si quelqu'un m'avait dit que j'aurais été chirurgienne un jour, je ne l'aurais jamais cru.
De haute voltige, hein, parce que... Oui. Et, comment on fait pour... est-ce qu'il y a un message d'espoir pour les femmes qui subissent une mastectomie en 2018 avec ce que vous faites?
Je pense que oui, parce que déjà depuis plusieurs années, il y a eu tellement de percées, juste pour la reconstruction mammaire, c'est sûr que de subir une ablation du sein, souffrir d'un cancer du sein, ça touche une corde sensible, non seulement parce que c'est un cancer, mais c'est vraiment une atteinte à la féminité de ces patientes-là. Donc déjà depuis... plus de 10 ans, il y a beaucoup d'évolutions sur les techniques de reconstruction de sein, mais il n'y avait rien du côté de ces complications chirurgicales-là. Donc là, je parle du fameux lymphédème, l'enflure des bras qui peut subvenir après le traitement médical, qui est vraiment une conséquence directe un peu de leur traitement.
Mais c'est ça que je comprends, Madame Tremblay-Champagne, parce que Actuellement, oui, il y a ce type de cancer-là qu'on connaît tous et qui touche des milliers de femmes. Mais là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'il y avait des grandes complications qui étaient très peu connues. Moi, je ne connaissais pas ça, ce problème de bras-là qui perdure. Donc, au-delà, là, on peut être guéri, être nommé en rémission de notre cancer du sein et continuer à avoir des invalides, être invalide le reste de nos vies. Et c'est ça qu'on est en train de mettre un terme à ça, là.
Oui, c'est sûr que c'est, à moins d'être dans le domaine ou de connaître quelqu'un personnellement qui a souffert du cancer du sein, c'est pas une pathologie qui court les rues, donc on n'en entend pas parler.
Ouais.
Selon nos statistiques, à peu près presque 15% des femmes qui vont avoir une mastectomie vont potentiellement souffrir de lymphédème. Donc c'est pas si rare que ça dans cette proportion de femmes, si vous voulez, là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont être bien traités avec de la physiothérapie, des méthodes plus conservatrices, puis qui vont très bien vivre avec ça. Par contre, il y a une bonne proportion des femmes qui vont en souffrir énormément et qui ne seront pas soulagées par des méthodes médicales conventionnelles.
En effet, il y a beaucoup, beaucoup, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de dérapages dans les reconstructions mammaires, on en parle peu. Ces femmes qui ont subi des mastectomies, comment vous vous adressez à elles? Parce qu'on s'entend que perdre son sein, c'est perdre son intégrité physique. Est-ce que votre vocabulaire est différent qu'une autre patiente? Comment vous y prenez? Il doit y avoir beaucoup de délicatesse dans votre discours pour essayer de les guérir. Comment ça marche?
Tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis surspécialisée un peu en reconstruction du sein, parce que je trouvais qu'on développait vraiment une relation très spéciale avec les patients, vu que c'est des moments extrêmement difficiles pour elles. Le vocabulaire est différent. On a la chance maintenant de les rencontrer avant, dans la plupart des cas, je dois dire, là, avant qu'elles subissent leur mastectomie. Et on est souvent capable de leur permettre d'avoir une reconstruction qui est faite en même temps que l'ablation de leur sein. Donc, on pense que ça leur évite de vivre une période de deuil où elles doivent vivre avec une ablation complète du sein avant d'avoir une reconstruction qui est possible. Donc ça, déjà, ça rend la conversation plus positive mm-hmm. avec les patientes, à savoir qu'on va pouvoir leur offrir quelque chose tout de suite dans le processus de reconstruction. Et c'est des longues consultations, c'est des longues conversations pour qu'elles comprennent vraiment bien tout le processus. C'est sûr qu'en médecine et en chirurgie, rien n'est magique. Souvent, plusieurs choses sont faites en quelques étapes. Donc, on s'assure qu'elles ont bien compris, mais c'est certainement pas des patientes qu'on peut bousculer dans nos bureaux en 5 minutes de consultation.
Mais moi, j'ai une question plus personnelle pour vous. Vous êtes une femme et vous travaillez directement avec une maladie, un cancer qui touche les femmes. Et comme Catherine l'a dit, ça touche la dignité, mais ça touche la féminité directement. Comment, en tant que femme, vous vivez ça, de voir passer toutes ces femmes au courant de la journée, au courant de la semaine, vous, en tant que femme?
C'est sûr qu'on y pense souvent en tant que femme, parce qu'on sait que c'est un cancer qui peut être très répandu puis qui est très commun. Mais moi, dans ma vie personnelle, je connais quelques personnes qui ont été atteintes. Certaines à des très jeunes âges. On sait qu'il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques, mm-hmm. par exemple. Je pense que on doit, nous, focusser vraiment sur l'espoir de ce qu'on peut leur offrir, mm-hmm. puis faire notre part vraiment pour faire en sorte qu'il y ait une lumière au bout du tunnel pour elles.
Qu'est-ce que vous préconisez, la mammographie? Qu'est-ce que vous, en termes de prévention, qu'est-ce que vous nous suggérez?
Écoutez, ça, c'est sûr que c'est une conversation souvent que les patientes vont avoir avec leur médecin de famille ou avec les chirurgiennes générales qui vont les suivre, là. Nous, on essaie d'avoir surtout les conversations liées à la reconstruction puis à la récupération. Mais en général, comme vous savez, il y a le programme de dépistage provincial pour le cancer du sein qui émet des recommandations à partir d'un certain âge, souvent plus jeune pour les femmes qui ont des parentes ou tantes qui ont été atteints par un cancer du sein. Donc, c'est bien important de suivre ces recommandations-là parce que c'est sûr que comme n'importe quelle maladie, quelque chose de décelé plus tôt a beaucoup plus de chances d'être guéri sans grandes conséquences plutôt que quelque chose qu'on laisse aller.
Et en terminant, Mme Tremblay-Champagne, parce que le temps va vite et vous êtes vraiment impressionnante dans cette surspécialisation-là, mais justement, là, on a des bonnes nouvelles, mais est-ce que vous êtes la seule à opérer de cette façon-là au Québec? Ouais, parce que là, les femmes vont cogner à votre porte nécessairement beaucoup plus. Comment on pense faire ce transfert de connaissances-là ici au Québec?
Oui, très bonne question. C'est sûr que une personne ne peut pas espérer traiter absolument tout le monde.
Ben, vous avez deux bras et une tête, hein, c'est ça?
Exactement. vous avez bien évoqué la problématique.
Ouais.
Écoutez, c'est sûr que je ne serai pas la seule à revenir dans les prochaines années au Québec avec les techniques chirurgicales nécessaires.
Est-ce qu'il y a des formations prévues pour ça?
Oui, écoutez, il y a plusieurs résidents finissants qui se surspécialisent en microchirurgie qui vont certainement revenir de leur surspécialisation au Québec dans les prochaines années avec les mêmes habiletés techniques. Aussi, moi, en étant chargée d'enseignement clinique à l'Université de Montréal, mm-hmm. je travaille fréquemment avec des résidents, c'est-à-dire des médecins qui sont en processus de formation pour devenir chirurgien plastique et qui vont apprendre tranquillement avec moi à faire ces techniques-là. Si on remonte à une quinzaine d'années, personne au Québec qui finissait leur résidence n'était capable de faire une microchirurgie. Mmh. Puis là, maintenant, les résidents qui finissent avec nous depuis 5-6 ans, la microchirurgie est une technique qu'ils maîtrisent très, très bien, justement parce que c'est inclus dans leur formation.
Donc, on peut dire que c'est une bonne nouvelle quant au service qui est offert, mais c'est également une bonne nouvelle pour l'accès au nouveau service qui est offert. Docteur Tremblay-Champagne, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps.
Merci. Merci à vous.
Merci, merci, merci.
Donc cette semaine, comme à toutes les semaines, chaque jour est une célébration, chaque jour est une terre d'accueil pour une fête mondiale ou internationale. Et on est ici pour en parler, les journées mondiales et internationales de cette semaine, donc du 5 au 11 juin. Le 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Mère nature, on est contente. Promulguée en 1974 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et célébrée dans plus de 100 pays actuellement, on vise en cette journée du 5 juin à protéger l'environnement, on l'aura deviné, là, tout en discutant et en cherchant des solutions pour minimiser les conséquences de nos modes de vie sur la qualité de vie des populations et pour la survie de notre planète. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a d'ailleurs établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence, soit la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité des réserves d'eau et la lutte contre la désertification et la sécheresse. On vise également une économie verte, mieux connue sous le nom de développement durable. Et le thème de cette année vise toutefois la lutte contre la pollution plastique. Et comme à chaque année, un pays en particulier est l'hôte des activités de l'ONU et c'est en Inde que se tiendra la rencontre en 2018. Le 5 juin conserve sa notion environnementale également, mais pas du même ordre. On accueille la Journée mondiale du naturisme le 5 juin. Je me suis dit, OK, on fête, c'est un mode de vie quand même, hein, et je ne m'y connais que très peu. Et c'est en 2006 que la journée a été organisée pour la toute première fois et à l'époque, la Fédération naturiste internationale souhaitait faire connaître la philosophie du naturisme auprès du grand public parce qu'on va se le dire, c'est très peu connu et ça mériterait d'être minimalement démystifié au moins pour faire tomber quelques préjugés qui pourraient être entretenus à l'égard de ce mode de vie parce qu'au-delà de la nudité à laquelle on se réfère rapidement. Dans nos conceptions du naturisme, la philosophie derrière ce mode de vie-là va beaucoup plus loin et soutient des valeurs comme le retour à la nature, le respect de soi-même et des autres et le non-jugement. C'est le 5 juin que la Journée mondiale du naturisme remet ces belles valeurs de l'avant. Le 6 juin est la Journée mondiale de l'orthoptique. Et je te lance la question, connais-tu l'orthoptique?
ça me gratte déjà.
C'était un terme que je n'avais jamais entendu, que je ne connaissais vraiment pas personnellement, mais l'orthopsie, pour ceux qui, comme moi, se questionnent, sur, c'est la discipline médicale dont la vocation est le dépistage et surtout la rééducation des troubles de la vision. Mise sur pied par l'Association internationale d'orthopsie, elle est fêtée tous les premiers lundis du mois de juin et son but est justement de mieux faire connaître le rôle et les activités des professionnels de la santé des yeux qui collaborent étroitement avec les ophtalmologistes et les opticiens. Le 6 juin, journée mondiale de la mini-jupe.
Mmh.
Ça n'a pas l'air sérieux comme ça. Hein?
Ben, pourquoi pas?
Ben, loin d'être légère comme journée, elle est soulignée depuis 2015, organisée par Rachid Ben Othman, président de la Ligue pour la défense de la laïcité et des libertés, et l'activiste féministe Najed Bayoud, en solidarité avec les femmes algériennes et en union avec toutes les femmes opprimées à travers le monde. Cette journée-là se veut beaucoup plus sérieuse que la célébration d'un morceau de tissu. On souligne bien sûr le droit des femmes à porter ce qu'elles veulent, parce qu'à l'origine de cette initiative-là se trouve une femme qui s'est vue refuser un examen pour port d'une jupe trop courte. La campagne « Sois un homme et voile tes femmes » a donc débuté et s'en est suivie une journée mondiale pour rappeler que le vêtement reste un choix individuel, indépendamment de la société dans laquelle on évolue.
C'est une bonne chose.
C'est fou, hein? Et je rappelle que ça s'intitule « Journée mondiale de la mini-jupe ». J'adore vraiment la profondeur de cette journée-là. 8 juin, Journée mondiale des océans. Vient nous rappeler le rôle essentiel des océans comme source de vie partout à travers le monde. C'est le gouvernement du Canada qui a proposé l'idée lors du sommet de la Terre et des Nations unies tenu à Rio de Janeiro en 92. Et c'est en 2009 que les Nations unies en ont fait la journée qu'on connaît aujourd'hui. L'événement est maintenant célébré sur les 5 continents et concerne plus que les individus. On parle des aquariums, des centres de sciences, des musées, des associations et des institutions d'éducation à l'environnement marin du réseau Océan Mondial. On propose, lors de cette journée, des activités ludiques et plaisantes pour toute la famille en n'oubliant pas les 4 objectifs principaux. Soit l'adoption d'une nouvelle perspective en encourageant les individus à réfléchir à ce que l'eau signifie pour eux et aux raisons de lui attacher une grande valeur. La sensibilisation, puisqu'un grand nombre de gens ne réalisent pas la profusion de créatures vivantes et d'habitats qui sont touchés par la façon dont on traite nos océans. Le changement de nos habitudes pour encourager les citoyens à devenir les gardiens de nos eaux afin de les préserver pour les générations futures et bien sûr la célébration de l'eau comme élément essentiel à la vie. Et cette année, le thème, pour être cohérent avec la Journée mondiale de l'environnement, touche bien sûr le plastique. Et ça a trop grande place dans nos océans actuels. Et je ne sais pas si tu as vu le projet nos océans du futur que j'ai vu une capsule sur les réseaux sociaux par rapport à ça. On amenait les enfants dans un aquarium et le thème, c'était nos océans du futur. Et tous les enfants ont très, très hâte de voir ce que cette exposition-là va leur apporter. Ils se ramassent dans un tunnel d'eau et tout ce qu'ils voient, c'est des sacs de plastique qui flottent partout. Et tu vois leur visage. Et moi, je me suis questionnée si ça ne créait pas un traumatisme plus qu'autre chose. J'ai vraiment questionné l'impact sur l'enfant, mais au-delà de ça, c'est sûr que l'aspect sensibilisation...
Avec cette capsule. Le visuel a un impact incroyable dans notre inconscient collectif.
Tout à fait. Ben, en tout cas, moi, j'ai très confiance que cette technique d'impact visuel, comme tu l'as si bien dit, va porter ses fruits pour les générations futures, qui sont d'ailleurs déjà beaucoup plus conscients de leurs traces environnementales que nous l'étions dans le temps. C'était les Journées mondiales et internationales de la semaine. Mm-hmm. Et pour une troisième semaine consécutive et la dernière et non la moindre, Robert, toujours au Nicaragua, vient nous parler de bonheur. Il vient pas vraiment. En fait, on va aller le chercher ou du moins les télécommunications pour nous permettre de rester en contact. Robert!
Oui, m'entends-tu?
Je t'entends très bien. Comment vas-tu?
Ben, ça va très bien. Le travail avance et l'observation des gens, les Nicaraguayens avancent aussi, ils sont formidables. On a fait plein d'amitiés. C'est toujours agréable de s'éloigner de chez soi et de découvrir d'autres mondes.
Mais absolument. Et justement, est-ce que tu es un ennuyeux, toi?
Oui.
Donc, tu risques de t'ennuyer non seulement des endroits que tu as visités, mais des gens avec qui tu as lié des nouveaux liens.
Moi, j'ai plein de peines. Comme j'ai voyagé toute ma vie, ben, je suis encore en train de me creuser des peines. J'ai fait ça toute ma vie, mais on finit par vivre avec quand même.
On peut se dire qu'on les porte dans nos cœurs si on veut essayer de rester un peu heureux. Est-ce que tu as quand même, encore et toujours, le cœur à la fête, assez pour nous inviter au bonheur cette semaine?
Oui, ben, je t'ai trouvé un nouveau truc. Ça m'est arrivé un soir où j'ai vu la télévision ici dans le hall de l'hôtel qui s'est arrêtée, l'image s'est figée, comme on le connaissait nous parfois. Et ça m'a fait faire un exercice. Tu fais ça chez vous, la télévision maintenant, on fait nos enregistreurs et tout. Alors, tu fais des arrêts sur image, et là, on parle toujours de méditation. Au lieu de méditer sur toutes sortes de choses, n'importe où sur une émission, arrêtez l'image et commencez à comprendre c'est quoi la relation avec cette image-là et soi. Qu'est-ce que ça me fait, cette image-là? Qu'est-ce que ça veut dire, cette image-là? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça ne me parle pas du tout? Mais ça ne se fait pas quand l'image bouge et qu'il y a du son. Quand l'image est arrêtée, c'est le silence sur un téléviseur. Alors, faites-le et réfléchissez sur cette image arrêtée. Vous allez être extrêmement surpris des résultats que ça peut donner. J'ai fait ça en prenant des photos des gens qui passaient devant l'hôtel et sur le bord du lac en face. Et je me suis aperçu que quand je regardais des photos, évidemment, ils sont arrêtés, c'est pas des films, ça me donnait une toute autre perception de ces gens-là et de la relation que j'ai pu avoir ou ne pas avoir avec eux.
Mais tu as nommé l'idée que l'image doit être arrêtée nécessairement parce qu'avec le mouvement et le son, ça fait beaucoup de distractions et rapidement notre cerveau va passer à autre chose. On ne prend pas le temps de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut... Là, tu dis on va être surpris, mais qu'est-ce qu'on découvre, je veux dire?
Faudra que tu le laisses pour pouvoir vraiment le conclure. Mais il y a une autre chose que je vais te suggérer. Et quels sont tes héros ou tes héroïnes favoris, toi, spontanément comme ça, là?
Spontanément, mes héros, mes héroïnes, ceux que je regarde avec des yeux pétillants, j'ai comme personne et tout le monde en tête. C'est bizarre, hein? J'en ai pas qui me viennent rapidement à l'esprit. Si la spontanéité était de mise, c'est un échec.
Alors, avant mon retour, fais l'exercice,
okay.
Fouille un peu, puis regarde ceux. Ça peut être des héros de l'Antiquité, maintenant, peu importe. Et à partir du genre de héros qu'on se définit, on peut définir très bien les désirs qu'on a dans la vie.
OK, donc quand on peut cibler qui on regarde avec des yeux qui pétillent, on peut trouver en soi, ça veut dire finalement ce qui fait vibrer notre cœur et ce à quoi on aspire.
C'est ça qu'on devrait peut-être développer en soi, c'est ça que ça veut dire.
Je trouve ça absolument génial. Reste avec nous, Robert, on va en musique et on te reparle dans quelques instants. Donc, Robert, du Nicaragua, je veux mentionner tout d'abord que tu es parti au Nicaragua. Là, ça fait la troisième semaine consécutive. Tu reviens au Québec la semaine prochaine. Tu vas être parmi nous, mais tu l'as fait pour une raison qui est simple. Tu n'en es pas à ta première biographie et tu as pris l'habitude de quitter le Québec pour aller prendre un recul. Et ça se fait, ça se fait en même temps que de prendre un recul physique. Tu te tasses des paysages que tu es l'habitude. Que tu as l'habitude de voir pour avoir un regard nouveau également sur ton écriture, sur ton livre, le finalisé. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça t'apporte, cette idée? Comment ça change ton regard et comment ton processus d'inspiration et de peaufinement se concrétise là-bas?
Quand on écrit chez soi au Québec, moi j'habite Longueuil, je pense nécessairement aux gens qui vont le lire parce que je les connais, c'est des amis, c'est des connaissances, bon... qui vont lire le livre. Quand il s'est identifié au paysage, si le paysage est complètement comme ici, magnifique, mais complètement différent de chez nous, en tout cas, il n'y a pas ce genre de perroquet que j'ai devant moi, il n'y a pas ça chez nous, non? Quand on prend ce recul-là, on s'aperçoit que ce qui est important, c'est que ces gens-là, qui sont des lecteurs éventuels, ne m'apparaissent plus en tête. Je vois devant moi des gens que je ne connais pas, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ne mangent pas de la même façon, qui ne vivent pas exactement de la même façon, ni aussi richement que moi, etc. Et ça me donne, sur ce que j'écris, une espèce de nécessité d'universalisme de ce que j'écris, d'élargir mon propos plus loin que ceux que je connais.
Ah, j'aurais pensé au contraire, au-delà de l'universalisme, plutôt que de mettre plusieurs visages ou tous les visages du monde sur tes lecteurs, de ne plus en mettre aucun, justement, pour se tasser un peu du lecteur et du résultat, et de ne pas penser, justement, au résultat et de le faire simplement à notre goût. Je pensais que c'est ça.
Non, pour moi, ce que tu dis, c'est impossible en communication. Le communiquer, c'est il y a un émetteur, il y a un récepteur, et je ne peux pas communiquer dans le vide. At large, vers les étoiles, je communique nécessairement à des gens, plus ou moins nombreux, plus ou moins aimants, plus ou moins familiers, mais je dois me... Comme on fait en radio, quand tu parles à la radio, on s'imagine qui écoute. Si on ne s'imagine pas qu'il y a des gens qui écoutent et à quoi ils ressemblent un peu, on ferait de la moins bonne radio, je te jure.
Ben, c'est parce que probablement que j'écrirai probablement des livres plus tard, je ne suis pas prête, mais j'écris des chansons, ça c'est un fait, et pour ma part, c'est parce que je me base sur ma façon de faire, qui est vraiment de me déconnecter de quiconque, de toute oreille qui écoutera cette chanson-là, ça m'évite de tomber dans le piège d'écrire pour quelqu'un d'autre, et je m'assure de rester dans mon cœur, c'est pour ça que je disais ça.
Sauf que quand tu les chantes, c'est pour quelqu'un.
Oui, mais à ce moment-là, les gens qui apprécieront vont apprécier ce que j'ai à l'intérieur. C'est différent. Ça part pas de la même place, mais je trouve ça très, très intéressant. Donc, d'apporter un universalisme, d'apporter un plurivisage au lecteur, on va le dire comme ça, un visage à multiples faces à un lecteur, ça te permet ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de finaliser quelque chose et d'en être satisfait?
Si j'étais pas capable, je ne serais pas là.
J'ai quand même hâte que tu viennes nous retrouver ici en studio, Robert. Je te souhaite de profiter de tes derniers moments et aussi de bien fermer tes nouvelles rencontres et de nous revenir en forme.
À bientôt!
Catherine.
Emmanuel.
C'est toujours mon nom, ça l'était hier, ça risque de l'être encore demain. Catherine, qu'est-ce qui t'a fait sourire cette semaine?
Manger des œufs. Ça a l'air que manger un œuf par jour,
oui.
Manger une étude chinoise,
okay.
Manger un œuf par jour améliorerait la santé cardiovasculaire. Les personnes qui ont l'habitude de manger un œuf par jour seraient 18% moins à risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire que celles qui évitent complètement les œufs, suggère une étude chinoise. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont suivi une cohorte de 461 213
Combien?
Participants.
461 200 participants.
Oui, provenant de 10 endroits de la Chine.
OK, c'est beaucoup, là.
Ils n'avaient jamais été diagnostiqués d'un cancer ou de problème de diabète ou d'une maladie cardiovasculaire. Alors, les auteurs de l'étude se sont intéressés à la consommation des œufs de chacun des participants. Et puis, ils les ont suivis pendant 9 ans. Pas pire.
Sérieusement, là, parce que j'ai déjà fait de la recherche dans le cadre de mon université. Donc, c'est un domaine que j'ai côtoyé pendant quelques années. Et cet échantillon-là, c'est une étude longitudinale, donc au long cours, 9 ans, c'est long. Et 461 000 personnes pendant 9 ans, cette étude-là, elle a une grande validité à mes yeux.
Absolument.
Je te dirais. Oui.
Et en analysant les données, les chercheurs ont remarqué que les Chinois qui mangeaient environ un œuf par jour avaient 18% moins de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire et 28% moins de risque de mourir d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Les œufs ont parfois mauvaise réputation, mauvaise presse, parce qu'ils contiennent des protéines à haute qualité et plusieurs nutriments.
Oui, j'aurais pensé qu'il fallait les tasser dans notre alimentation.
Non. Et ils renferment aussi beaucoup de cholestérol, explique l'étude de cette recherche. Mais selon lui, les avantages de consommer des œufs avec modération supplantent toutefois les risques associés au cholestérol. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité en Chine et représentent la moitié des décès. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les maladies cardiovasculaires causent 17,7 millions de morts par année dans le monde, soit environ un décès sur trois à souvenir actuellement autour du globe. Et cette étude chinoise a été publiée dans la revue spécialisée Heart de la British Cardiovascular Society. Donc, manger des œufs, une fois des œufs, des omelettes.
Mais c'est intéressant ce que tu as dit, par contre, parce que tu as dit qu'une consommation modérée supplante une consommation abusive d'œufs, parce qu'on va se le dire, moi j'en parle souvent à l'émission que je fais un tournant végétalien, je continue à manger des œufs, c'est ce qui reste actuellement à tasser de mon alimentation, mais effectivement, on dirait que je me dis, au moins c'est pas si pire, ça peut m'aider sur le plan du cholestérol, mais j'invite quand même les gens, juste par conscience, là, de vérifier où on prend nos œufs, hein, de toujours, si vous avez un voisin, même si vous avez des poules urbaines, parce qu'on va changer, les lois vont changer sur le droit d'avoir des poules urbaines là, prochainement, donc on risque d'avoir une plus grande accessibilité.
La poule sera accessible?
Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Il y aura une plus grande accessibilité à des poules qui vont être élevées dans des milieux qu'on connaît par des gens que l'on connaît. Donc, allez voir ceux qu'ils font avec amour et respect de leur animal. C'est toujours gagnant. Merci, Catherine.
Merci beaucoup.
Merci. Ouf! La journée n'est pas finie. Il y a une innovation. Super intéressante que j'ai découvert et qui concerne les gens qui vivent des migraines. Parce que ça aussi, les maladies cardiovasculaires touchent énormément de personnes. Mais il y a beaucoup de gens qui sont atteints de migraines et de maux de tête également. Moi, je suis chanceuse. J'ai pas vraiment souffert de maux de tête dans ma vie. C'est pas un mal qui fait partie de ma vie, mais ça touche énormément de gens et les symptômes ne s'arrêtent pas à une douleur au crâne. On parle de nausées, perte de vue également, et pas seulement une perte de vue, on appelle ça avec aura, des migraines avec aura et aussi tous des symptômes post-migraine, dont la fatigue, la perte de concentration, qui peuvent durer jusqu'à 2 jours suivant la phase aiguë de la migraine, plus la migraine qui peut durer jusqu'à 72 heures. C'est quasiment une semaine qu'il nous faut pour passer à travers et s'en remettre. Donc, très bonne nouvelle pour ceux qui en souffrent. Et Erinumab, j'espère que je le dis bien, est un nouveau médicament qui est injectable et qui bloquerait les signaux de douleur dans le cerveau. C'est un médicament qui est constitué d'anticorps qui ciblent un récepteur dans le cerveau où une protéine associée aux migraines va s'attacher. Et c'est d'ailleurs cette protéine-là qui s'occupe du signal de la douleur lors d'une phase de migraine. Donc, nécessairement, en envoyant le nouveau médicament à ce même endroit et en bloquant ce signal-là, on empêche la protéine de dire à notre cerveau « t'as mal, t'as mal dans ta tête ». Mais on s'attend nécessairement à éradiquer la douleur qui y est habituellement associée. Actuellement, les résultats sont prometteurs et on voit une diminution de 50 % du nombre de migraines mensuellement chez les personnes qui ont bénéficié de ces injections-là pour du moins les tester. Et il n'y a aucun effet secondaire répertorié jusqu'à présent.
C'est une bonne nouvelle.
C'est très, très, très bien parti. Je ne sais pas quand ça sera disponible. Breveté est disponible actuellement au Québec, mais on suivra ça de près pour ceux qui en souffrent et qui voudraient suivre la trace. Je répète, c'est le Erinumab. R-E-R-E-N-U-M-A-B. Il a bien fallu que je le répète.
Et puis l'ADN, ça se dit comment?
Acide désoxyribonucléique.
Bravo.
Et j'en profite pour vous dire également qu'en plus de nouvelles technologies, on vient de découvrir un nouvel organe dans le corps humain. Quand je disais des fois, et Jean-Sébastien, quand on en a parlé, il m'a dit « je pensais jamais qu'on allait encore découvrir quelque chose dans notre corps ». Eh bien oui, cet organe a été découvert par accident, comme ça arrive très souvent pour plusieurs découvertes qu'on fait. On fait beaucoup de découvertes par accident. Lors d'une endoscopie, donc à l'aide d'une caméra, on voulait aller voir le système gastro-intestinal d'un patient. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est un système de réseautage, un canal, littéralement, qui fonctionnerait comme un organe et qui a son apparence une fois qu'on le rassemble en un morceau, mais qui va partout dans le corps. Il contient le 1/5 de tous les fluides du corps. C'est pas rien, là! Et on savait pas que ça existait. Et il servirait de bouclier protecteur, entre autres, pour absorber les chocs qu'on peut subir en se cognant, en n'importe quoi. Et non seulement ça, mais cet organe nouvellement découvert servirait potentiellement à véhiculer, il servirait de véhicule aux cellules cancéreuses à travers le corps. C'est ce que les chercheurs se sont rendus compte. Donc, ils pourraient expliquer les cas de cancer invasif et la possibilité de cancer métastasique. On sait, les métastases, ce sont des nouveaux foyers de cellules cancéreuses qui se retrouvent de manière hasardeuse dans le corps. Eh bien, le hasard serait peut-être découvert. On en est actuellement à analyser les fluides contenus dans cet organe, mais clairement, on peut commencer à penser que on va faire de très grandes avancées avec ce nouvel organe qu'on a découvert dans notre corps. Et je trouvais ça absolument fantastique. C'était les bonnes nouvelles de la semaine. Merci Catherine Bourderon d'avoir été à mes côtés encore une fois. Je remercie Robert Blondin d'avoir pris de son temps au Nicaragua pour venir nous parler, oui, de bonheur. Je remercie également Jean-Sébastien Laliberté à la régie de nous avoir informés et nous avoir appris plein de longs mots. Et je remercie également le docteur Marie-Pascale Tremblay-Champagne d'être venue à l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine.
Au plaisir.